Radio Barque, on se retrouve pour notre deuxième partie du sommaire. Alors, comme nous l'annoncions tout à l'heure, on va commencer par la polémique narbonnaise de la semaine, un retrait de délégation concernant Jean-Marie Aurid, conseiller municipal, Nouveau-Narbonne.
Et de deux, Jean-Claude.
Et de deux.
Oui,
sans compter les démissions.
Autant que je m'en souvienne, tu es le premier.
J'ai essuyé les plâtres.
Tu fais le premier, donc voilà, maintenant c'est le délégué à l'Occitan, ce pauvre Jean-Marie Aurid qui a été viré. Enfin, viré, bon, qui on a retiré sa délégation. Il reste néanmoins élu.
Bien entendu.
Puis bon, on peut espérer aussi qu'avec toi, vous tiez un groupe.
On va faire un club.
Un groupe fait au Grand Narbonne.
On va pouvoir faire un club.
Enfin bref, voilà. Et alors, la raison invoquée par Didier Mouly est quand même surprenante, quoi.
Surprenante est un bel euphémisme.
Il dit, voilà, bon, il a pris un engagement politique qui est en dehors de la charte de Nouveau-Narbonne. Alors, j'ai sorti dans mon blog quand même une de ces déclarations de Didier Mouly quand le jour même où il a reçu d'ailleurs Philippe Sorel. Philippe Sorel, qui a tiré la liste sur laquelle Jean-Marie Aurid était candidat et qui lui vaut ce retrait de délégation.
Exactement.
Alors, je lis, Didier Mouly. Le concept. C'est le jargon de Didier Mouly, moi, c'est pas le mien. Le concept d'activité politique, dixit, de Philippe Sorel correspond à celui de Nouveau-Narbonne. Et à mon ressenti qui plus est. Si je devais partir aux élections, disait-il, Didier Mouly, c'était le 10 septembre. Il serait le meilleur concept, celui où l'élu n'est pas pris pour un larbin. C'est une déclaration d'amour à Philippe Sorel.
Mais comme on dit en langage jeune, j'hallucine, là, quand on entend ça, on hallucine, franchement.
C'est une déclaration d'amour à Sorel. On lui dit, mais vous êtes l'incarnation même de ce que je ressens moi, en fait, en tant qu'élu, qui vit la politique, de la même manière que vous. Je suis comme vous, en fait, contre les partis, de manière générale, en fait, et je ne prends pas mes élus pour des larbins.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
paradoxal.
C'est là où on hallucine.
On dit, on a Sorel. Et donc, il vire. Enfin, il lui retire sa délégation. Incompréhensible, en fait. Et dans le même temps, on apprend que son sixième adjoint, Jean-Paul César, candidate, lui, fait à la présidence du Parti des Républicains.
Oui. Dans l'autre. Parti de droite.
Qui candidate à cette présidence, parti de droite bien connu, bon, traditionnellement allié, mais en même temps ennemi de Nouveau-Narbonne, on peut dire ça comme ça quand même, concurrent en tout cas sur la place narbonnaise.
Enfin, allié difficile.
Et ben, il y a l'évidence, Jean-Paul César a une stratégie personnelle au sein de ce parti qui est d'abord d'éliminer Michel Py de toute candidature future sur les législatives et pourquoi pas de se présenter lui-même s'il était élu président du Parti des Républicains à cette même candidature. Et alors le problème, c'est que lui, il est complètement, effectivement, clairement politique, pour un mandat politique interne qui, à terme, se traduira mal. Et puis lui, il reste. Il reste. Alors, il reste pourquoi? Quand j'ai écrit le billet, la presse ne le disait pas, mais par contre, dans la presse de vendredi, Laurent Roquette, quand même, lève les cartes. Pourquoi? Parce que, effectivement, deux poids, deux mesures. L'intérêt de César dans cette affaire rejoint, en fait, l'intérêt de Didier Mouly, politiquement. On sait très bien, c'est pas la peine de faire de rappeler l'histoire, que les rapports entre Michel Py et Didier Mouly ne sont pas des rapports de coopération. La meilleure preuve, c'est qu'au Grand Narbonne, il s'empaille. Michel Py fait partie de la majorité de fait de Jacques Bascou, alors que Didier Mouly ne passe son temps qu'à combattre effectivement cette dite majorité, et en considérant d'ailleurs que Michel Py avait trahi d'une certaine manière la droite et le centre régional, la politique du Grand Narbonne. Enfin, c'est compliqué.
Et alors l'allusion que tu fais, Michel, est intéressante parce que c'est un petit peu nouveau depuis quelque temps, cette intervention de Laurent Roquette. Là, on retrouve en quelque sorte un parfum qu'on appréciait jadis sous la plume de Manuel Cullet.
C'est vrai.
C'est-à-dire une façon très journalistique au bon sens du terme, de remettre les pendules à l'heure, de faire des analyses et d'appeler un chat un chat.
Exactement.
Par Laurent Roquette, nouveau responsable de l'agence narbonnaise, que nous saluons confraternellement au passage. Voilà.
Oui, d'autant que j'avais fait ce billet la veille où, de manière beaucoup plus synthétique, j'expliquais ce que développe d'ailleurs Laurent Roquette. Et c'est très bien que cela soit dit et écrit. Alors, il faut quand même savoir aussi que derrière tout ça, derrière Jean-Paul César, il n'y a pas que lui qui travaille.
Il y a de la manœuvre. Par exemple, la
meilleure démonstration que dit Mouly est aussi à la manœuvre, c'est, si on peut me permettre ce genre de comparaison, c'est que il y a dans le club de soutien de Jean-Paul César, il y a tout simplement une dame qui faisait binôme avec Didier Mouliot, départemental, et qui a été battue. Le dit binôme.
Oui, enfin bon.
Si elle est là, c'est pas par hasard.
On imagine qu'ils sont plusieurs.
Donc voilà. Alors, ça dit, j'ai quand même donné un conseil amical à Jean-Paul César, en faisant attention. Rappelez-vous ce qui s'est passé à d'autres candidats des RPR de l'époque. Hein. Et puis, peut-être que le moment venu, quand vous serez, si vous gagnez faites la présidence du Parti républicain, le couple Didier Mouly pourrait vous couper les ailes.
Oui,
votre utilité à ce moment-là sera marginale.
Cela dit, wait and see, parce qu'on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore du tout.
Alors, une petite remarque quand même aussi intéressante concernant ces élections internes au PR, aux Républicains, pardon. Dans nos départements voisins, on s'aperçoit qu'une dame à Perpignan briguait également cette présidence du Parti républicain. Elle est adjointe à Perpignan, elle est conseillère départementale. Mais malencontreusement, elle avait oublié de se tenir à jour de ses cotisations et elle est donc blackboulée. Tu fais souvent remarquer une certaine incompétence de certains élus. Je pense que là, ça vaut son pesant d'or.
Alors incompétence ou alors comme un qui maintenant ne l'est plus. Enfin, s'il est toujours député, mais il a été viré du gouvernement. De Manuel Valls, ou alors peut-être que ces dames fait preuve aussi de phobie administrative. Je fais référence à M. Thévenoud, l'éphémère ministre de quelques semaines, qui effectivement avait oublié de faire ses déclarations d'impôts.
Une belle expression qui a enrichi la langue française, la phobie administrative. Pour conclure cette deuxième partie, Michel, on revient dans le vrai-faux, et là tu vises le plan Marshall voulu par de nouveau la présidente de la région.
Oui, alors plan Marshall, ça m'a fait d'ailleurs sourire,
l'expression plan Marshall. C'est une grande expression.
Quand même, oui. Bon, faire référence à l'après-guerre, à la Seconde Guerre mondiale dans notre pays.
Le plan de sauvetage de l'Europe.
Et le plan de sauvetage de l'Europe avait financé par des capitaux américains d'un montant considérable qui n'a rien à voir avec les 800 millions d'euros affichés par Madame Delga. Alors, je me suis dit, mais quand même, voyons voir. Voilà une grande région qui n'a pas encore voté son budget. Elle n'a pas encore voté son budget, elle doit le voter avant le mois de mai.
Sont des intentions avouées.
Il a dit ce sera. Donc l'année 2016 ne sera pas une année blanche, et ce ne sera pas un montage, ce sera de l'argent nouveau.
Alors,
j'ai fait un petit calcul. J'ai pris les deux budgets consolidés des deux régions. Languedoc-Roussillon, d'un montant à peu près équivalent. Ça fait en gros 2,4 millions. 2,4 millions d'euros, les deux budgets. Et les deux budgets. 2 milliards.
Je croyais que c'était un budget particulier. 2 milliards.
2 milliards.
Et demi.
D'accord. Je regarde les deux budgets d'investissement des deux régions et je les consolide. Les deux, à peu près le même montant. J'arrondis. 1 milliard d'euros. Les deux budgets consolidés d'investissement.
En investissement.
C'est-à-dire lycée, transport, etc.
Donc 800 millions là-dessus, ça fait.
Donc rajouter 800 millions. À un million.
Un milliard.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter la fiscalité de manière considérable, ou faire des économies équivalentes ailleurs. Donc moi, je vois vraiment pas comment on peut afficher. Alors, ce que je crois, pour avoir vécu ce genre de gestion, à l'époque où j'étais en responsabilité, c'est que tout simplement on fait un habillage, c'est-à-dire qu'on prend effectivement dans tous les budgets d'intervention des deux régions, et puis on coche effectivement tous ceux qui, directement ou indirectement, a un effet sur le bâtiment ou sur les routes. On va prendre, je ne sais rien, moi, la création d'un CFA, l'ouverture d'un lycée, l'aménagement de villages, on fait une addition, puis 800 millions.
Voilà. D'où l'étiquette de vrai.
Faux. Alors, jusqu'à ce qu'on me fasse la démonstration qu'effectivement, ces 800 millions d'euros seront 800 millions de plus, effectivement, aux 1 milliard d'euros actuellement, programmés par les deux régions.
Donc, certain que Radio BAC, prochainement, nous reviendrons sur le sujet. Bernard Ballester.
Ceci dit, Michel, effectivement, le terme de plan Marshall, il faut savoir que quand même, c'est quelque chose qui a été demandé par la profession. Parce qu'une profession qui est en grande difficulté.
On va y revenir, vous l'avez signalé récemment, Bernard Ballester.
On va y revenir, c'est sûr.
Voilà. On marque une pause et nous nous retrouvons pour une troisième partie, justement avec, comme invité, je le rappelle, Bernard Ballester, président de la CCI de Narbonne.